Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et je vous rappelle que ce soir, nous parlerons du Mali et notamment du blocus imposé par des djihadistes sur le village de Dinangourou, dans le centre du pays depuis bientôt 2 mois et qui provoque la colère de la classe politique et de la société civile. Mais avant, voici notre rubrique Carte Blanche.
La Carte Blanche, Africa Radio.
Et c'est avec le journaliste camerounais Jean-Marc Sobot. Bonsoir, Monsieur Sobot.
Bonsoir, Liliane. Bonsoir à tous les auditeurs de Africa Radio.
Merci d'être avec nous en direct du Canada. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages. Et votre premier sujet, Monsieur Sobot, c'est la République centrafricaine, où un rapport de l'ONU présenté devant le Conseil de sécurité mercredi salue des progrès réalisés par le pays, mais dénonce aussi certaines violations des droits humains, allusion notamment aux paramilitaires russes présents en Centrafrique.
Oui, c'est normal, c'est surveiller ce qui se passe en Centrafrique pour l'ONU en l'occurrence, c'est tout à fait normal. Mais il faut simplement rappeler une précision qu'avait faite à ce sujet la diplomatie russe, qui, en l'occurrence, l'ambassadeur de Russie en Centrafrique, Vladimir Titorenko, qui avait précisé que tous les gens, tous les experts qui sont envoyés en RCA, ils sont aujourd'hui plus de 1000, ils sont au titre du ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la Russie a qualifié ces informations en général de... Et je parle de ces gens qui sont impliqués dans l'offensive que le gouvernement centrafricain a entreprise pour récupérer toutes ces parties du territoire qui étaient occupées, qui étaient contrôlées par
les rebelles. Mais là,
c'est des gens qui sont du ministère de la Défense russe.
Donc, vous ne faites pas de différence entre les instructeurs qui sont environ 500 d'après l'ambassadeur russe et ces paramilitaires, c'est des paramilitaires dont il s'agit, des membres de la sécurité, c'est Wagner dont il s'agit, oui. Jean-Marc Sobot.
Ces groupes russes existent et je dis, en fait, c'est des groupes qui agissent, comme vous avez dit, Wagner, il y en a d'autres. Qui agissent comme à titre privé, c'est des contractants privés qui n'ont rien à voir avec tous ces gens qui sont impliqués dans la guerre, disons. Merci. Ça comme ça, qui sont impliqués avec les forces armées centrafricaines. Ces groupes existent et j'en ai vu d'ailleurs qui assurent la protection du chef de l'État du président centrafricain. Ouais. Merci. Alors c'est en cela qu'il fallait dissocier. Et on a dit, ces gens-là, s'il y a un problème, il faut les assigner en justice de manière directe.
Tout à fait, c'est ce qu'a dit Moscou, qui pouvait être poursuivi individuellement. Oui. Pardon Jean-Marc, le temps va très vite. Deuxième sujet, c'est ce projet de loi d'amnistie qui sera bientôt présenté devant le CNT, le Conseil national de transition, qui est l'organe législatif provisoire et de la transition au Mali. Certaines sources affirment que ce projet aurait même déjà été déposé depuis une dizaine de jours.
Oui, écoutez, pour l'instant, c'est un projet qui est annoncé et je n'ai vu à aucun endroit un endroit où c'est confirmé. Dans tous les cas de figure, ce projet va arriver. Mais il est important de rappeler que ce projet existe depuis le mois depuis le mois de mai et qui avait été donné à l'ancien premier ministre, avait été transmis à l'ancien premier ministre Mokhtar Ouane. C'est un projet qui est là et qui, et bien évidemment, et étant donné que un coup d'État n'est jamais constitutionnel, c'est anticonstitutionnel, donc cette loi était là pour
protéger les poutistes.
Évidemment, les poutistes du Conseil national de transition. Et moi, je pense que c'est quelque chose de normal, même si après, ça va se jouer sur le rapport de force qui... sur un rapport de force et non sur la base d'une loi qui existe.
Dernier sujet, Jean-Marc, c'est votre pays, le Cameroun, qui tente d'acheter de nouveaux équipements militaires, mais qui ont été bloqués par les États-Unis, alors que le pays est engagé dans la lutte contre les sécessionnistes dans deux régions anglophones, le sud-ouest et le nord-ouest.
Oui, dans ce cas, c'est des patrouilleurs. Les patrouilleurs, en fait, c'est beaucoup plus pour le littoral, c'est beaucoup plus pour cette partie du golfe de Guinée où il y a beaucoup de banditisme, mais ça n'exclut pas le sujet qui consiste à dire que le gouvernement camerounais continue de s'armer dans cette guerre qu'elle avait espéré pouvoir durer 5 minutes. On avait dit, bon, ben, ça va durer 5 minutes. Et voilà qu'on se rend compte aujourd'hui que 4 ans plus tard, ça continue et le gouvernement, à travers, n'est-ce pas, ces autres contractants israéliens des anciens de Tchal, continue de s'armer, continue de s'endetter auprès de la Chine et autres. Et voilà, il continue une guerre qui est une guerre asymétrique. Et vous avez vu tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Il y a eu presque 15 morts dans le nord-ouest et le sud-ouest, et en l'occurrence dans le Ngor et Tundia, d'après l'annonce du préfet du coin, c'est une guerre qui se poursuit et j'ai l'impression qui se sophistique au plan de cette rébellion séparatiste. Et comme l'avait d'ailleurs prédit un politologue nigérian du Collège national de défense, et il avait dit c'est des gens qui vont commencer, comme ils ont commencé avec des fusils de deuil, avec des fusils de chasse, et que avec à la longue, c'est une rébellion, c'est une véritable armée avec qui aura des techniques de guerre qui va se mettre en place et puis ça va compliquer davantage la situation.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Marc Sobot, journaliste et auteur camerounais basé au Canada.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Quelles réponses doivent apporter les autorités maliennes face au blocus imposé par des djihadistes sur le village de Dinangourou, dans le centre du Mali, après celui de Farabougou il y a un an? Nous en parlons ce soir avec trois invités. Amadou Diané, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes secrétaire général du mouvement Ensemble Unis pour un Mali nouveau émergent à Bamako. C'est un rassemblement proche de l'ancien régime. Et nous avons également l'avocat Abdourahmane Ben Mamata Touré. Maître Touré, bonsoir.
Bonsoir, madame. Bonsoir.
Et nous espérons avoir dans quelques instants Brahima Mahmad, qui est politologue et spécialiste des questions de gouvernance et sécuritaire. Il est également enseignant en sciences politiques à l'Université de Bamako. Nous allons commencer avec vous, monsieur Diané. Depuis près de 2 mois, les djihadistes imposent donc le blocus sur le village de Dinangourou, dans le centre du Mali. Quelles sont les dernières informations vérifiées dont dispose aujourd'hui, on dispose à cet instant?
Bon, pour vous dire que selon les dernières informations, les djihadistes, comme vous l'avez si bien dit, encerclent la ville localité. Donc pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas de solution à ce problème d'abord.
Ils encerclent toujours les localités, mais on parlait du blocage des populations, mais aussi des certains habitants qui auraient été blessés, d'autres tués, parce qu'ils ont essayé de contourner ou de ne pas respecter ce blocus. Que sait-on précisément sur cet aspect?
Bon, vous savez, les habitants, en général, quand ils font des blocus sur une localité, donc ils disent que c'est leur loi. Donc s'ils laissent les gens qui essayent de déjà se bloquer, peut-être par crainte aussi, pour leur sécurité, ils agissent ainsi. Sinon, dans les principes, ils ne s'en prennent pas à la population. Ils
font. Mais il y a combien de blessés, combien de morts aujourd'hui, depuis près de 2 mois que ce blocus s'est imposé?
Exact. Franchement, je n'ai pas le nombre exact de morts et de blessés, mais je crois que les habitants, en faisant ça, se cherchent aussi à se protéger aussi d'une éventuelle assaut des forces armées maliennes, quoi. Donc, en mettant ce blocus ou bien en dissuadant les gens qui essaient de contourner ce blocus par peur ou bien par crainte d'un assaut de l'armée, donc ils font ça pour dissuader les populations qui certainement vont essayer d'avertir ou bien de donner des renseignements aux autorités.
D'accord. Maître Touré, que sait-on des circonstances qui ont conduit à ce blocus? On parle d'un différend entre les habitants et ces djihadistes de la Katiba Massina qui accusent les habitants de continuer à collaborer avec les militaires maliens qui ne sont pas loin puisqu'ils possèdent un camp. Que sait-on des causes de ce blocus?
Merci madame. Je pense que la situation de Banangourou, elle n'est pas très loin de celle de Farabougou. Les informations qui parviennent sont des informations qui sont par moments contradictoires. Certains affirment qu'en réalité, le différend proviendrait du fait que les habitants collaboreraient avec les militaires de l'armée malienne en essayant d'identifier ou de donner des renseignements sur les djihadistes ou leur gîte. Et d'autres estiment simplement qu'ils prennent appui un peu sur ce qui s'était passé à Farabougou pour essayer également d'obtenir les mêmes résultats. Au passage, ce qui s'est passé à Farabougou, c'est que le village avait été encerclé pendant un certain nombre de temps. Et pour pouvoir dégager les habitants de cette emprise, en tout cas, les autorités avaient accédé à une forme de convention avec ces djihadistes qui impliquait...
Négociée par...
Les militaires, l'organisation musulmane
aussi.
Exactement. Qui ont été les facilitateurs. Voilà, qui ont été les facilitateurs. Donc, c'est une convention qui a beaucoup de choses également de pas très conformes à la République, notamment la possibilité pour chacun de pratiquer son culte, ce qui est déjà consacré, on n'a pas besoin de le concéder. Mais ce qui est un peu plus sérieux, c'est qu'on donne à chacun la possibilité de se faire juger selon ses justes, ses coutumes et sa conviction religieuse. Ça veut dire qu'on peut choisir dans sa famille de faire appliquer la charia. Donc ça veut dire qu'on est en train simplement de fractionner la souveraineté qui est la justice, fonction régalienne de l'État au niveau des villages. Donc par à-coup, on se dit qu'ils veulent obtenir les mêmes choses à Banangourou de l'autre côté. Et la première des choses, c'est de trouver les motifs. Et le motif qui était avancé dans ce cas-là, c'était un motif de connivence avec les militaires de l'armée. C'est vrai que l'armée malienne, dans le cadre des opérations civilo-militaires, fait beaucoup d'œuvres sociales. Elle pourvoit des soins pour des personnes malades, aide les enfants, etc. Donc les djihadistes y ont vu une forme de connivence, une forme également de rapprochement et qui n'est pas conforme à leurs intérêts. Donc ils Merci. En ont tiré avantage maintenant pour essayer d'encercler encore ce village à l'image de Farabougou. Voilà les informations que moi j'ai de cette situation.
Merci Maître Touré. Et nous avons à présent M. Brahima Mamad Koné. M. Koné, vous m'entendez?
Oui, je vous entends.
Vous êtes donc politologue spécialiste des questions de gouvernance et sécuritaire et enseignant en sciences politiques à l'Université de Bamako. Je ne sais pas si vous avez écouté l'analyse de M. Ben Mamata Touré, qui explique en gros que ce qui se passe aujourd'hui à Dinangourou a été inspiré de ce qui s'est passé il y a un an à Farabougou. Est-ce que cela signifie qu'il faut s'attendre au blocus de nouvelles localités, puisque cela semble être la stratégie des groupes armés désormais?
Oui, il faut s'attendre à des nouveaux blocus dans certaines localités au niveau du centre du pays. Parce que le premier axe dans la liste, c'est que le discours qui est prôné par les djihadistes et certaines communautés à la base sont favorables à ce discours, qui en réalité fissure l'État de ne pas assurer son rôle régalien de sécurisation des personnes et de leurs biens, et l'État qui les a abandonnés aux mains et sous la domination des groupes djihadistes et des groupes armés. Mais le deuxième axe d'analyse, c'est que aujourd'hui notre armée n'est pas en capacité opérationnelle et opératoire pour les missions régaliennes de sécurisation du territoire national. Donc les populations sont laissées à elles-mêmes. On a l'impression qu'on est dans une sorte de sous-traitance de notre propre sécurité, qui doit relever de l'État, ce qui fait aujourd'hui qu'il y a une domination des groupes terroristes et des groupes terroristes qui opèrent également au niveau du nord du pays, au niveau du centre du pays. Et, mais aussi, il faut l'autre axe l'autre axe d'analyse, il faut reconnaître aussi que cette domination des communautés à la base par les groupes d'Addis aujourd'hui s'explique aussi par l'échec également de la des forces internationales qui sont présentes. On arrive à comprendre qu'on a quand même à peu près des milliers de militaires qui sont là dans le cadre des missions de maintien de la paix et qu'au même moment, les groupes terroristes continuent à faire leur avancée sur le territoire national, à occuper encore certaines parties du territoire national. Donc ça, c'est vraiment la question de fond. Est-ce que ces forces internationales, elles sont là pour la sécurisation des populations de leurs biens ou est-ce qu'ils sont là pour autre mission? Parce qu'on ne peut pas comprendre avec tous les dispositifs militaires, les effectifs militaires que ces forces armées disposent et qu'on n'arrive pas à sécuriser les populations qui sont toujours sous la domination des groupes.
Mais avant de parler des forces étrangères, M. Kone, est-ce qu'il n'y a pas la responsabilité des FAMA, des forces armées maliennes, qui sont en quelque sorte en train de faciliter ces accords intercommunautaires, comme on en a vu dans le cercle de Koro, puisque vous-même vous dites que ce à quoi on assiste aujourd'hui à Dinangourou est parti d'abord d'un précédent qui a eu lieu à Farabougou.
Oui, oui.
Je veux dire, ce sont les forces maliennes qui encouragent ce type d'arrangement et pas les forces internationales ou étrangères.
Oui, ce qui se passe à Dinangourou, c'est en fait Farabougou est devenu une sorte de corps, n'est-ce pas, les blocus de Farabougou, une sorte de corps pour les groupes radicaux qui sont en train de dupliquer partout où ils ont une domination en attente de l'État et en attente de forces armées de défense et de sécurité. L'échec d'abord est national, l'échec est interne. Si nous avons une armée à la dimension des attentes des attentes sécuritaires et de sécurisation des institutions de la République, nous ne serons pas là. Mais il faut le dire que notre armée n'est pas en capacité aujourd'hui d'assurer ces missions de sécurisation du territoire national. Et les problèmes se situent au niveau du commandement militaire. Il y a une défaillance totale au niveau du commandement militaire, ce qui fait que, en réalité, à présent, l'armée malienne, les états-majors n'ont pas pu mettre en place des groupements mobiles de sécurité pour permettre à ces groupements mobiles de circuler à l'intérieur du pays.
Merci.
Afin d'éviter que les groupes radicaux djihadistes continuent à annexer les villages, à annexer les communes.
Et à imposer les blocus. Merci, M. Kone. On vous redonnera la parole dans un instant. À tout de suite.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et avec nos invités ce soir, nous parlons du Mali avec le blocus imposé par des djihadistes sur un village du centre du Mali. Il s'agit de Dinangourou et de la réponse des autorités. Et notre plateau est composé de Berima Mamad Kone, politologue, Abdourahmane Ben Mamata Touré, avocat, et Amadou Diané, secrétaire général du mouvement Ensemble Uni pour un Mali nouveau émergent à Bamako. Monsieur Diané, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends.
Quand on écoute les autres panélistes, l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est que les autorités maliennes n'ont pas de réponse face à ce blocus qui est le deuxième auquel on assiste. On parlait de Farabougou, maintenant Dinangourou. La classe politique réclame des réponses, mais est-ce qu'elles viennent, est-ce qu'elles arrivent?
Bon, pour l'instant, je crois qu'on ne peut pas agir à la va-vite. Vous savez, ces gens-là, ils sont tellement situés ou bien ils ont tellement des informations. Donc, à la moindre erreur, ils n'hésiteront pas à mêler des représailles au sein de la population. Pour éviter tout amalgame, je crois que l'État doit d'abord chercher à identifier les buts terroristes et trouver des moyens, s'il s'agit même de passer par les négociations, comme ce fut le cas pour Farabougou.
C'est depuis le 2 mai que ce village est sous blocus. Il y a des notables qui ont appelé les autorités maliennes à agir pour les protéger, parce que dans le village, les denrées alimentaires commencent à manquer. La vie est devenue de plus en plus difficile. Les populations sont malmenées, frappées pour celles qui résistent. Vous pensez que depuis lors, les autorités sont toujours en train de mener les enquêtes, chercher des réponses?
Oui, bien sûr, je crois qu'il serait prudent, assez prudent de ne pas agir, de ne pas aller à la confrontation directe avec ces gens. Si la négociation s'impose, donc je crois que l'État devrait chercher à établir un contact avec ces gens afin de trouver une solution à cela.
Et pour vous, c'est quoi la solution aujourd'hui, si vous aviez à être consulté au niveau de votre regroupement politique par les autorités, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Bon, pour moi, la solution, quand même, elle est loin d'être militaire. Puisque, vous savez, la zone à laquelle nous parlons, il y a une crise communautaire. Donc, les djihadistes, en agissant ainsi, s'appuient sur une race de la communauté, si vous me le permettez, sans faire d'amalgame. Donc, en voulant se faire, ils font la propagande de venir en aide à leurs frères de couleur. Bon, je crois que dans ces problèmes de ce genre, donc, il serait prudent pour l'État de chercher d'abord par des voies de négociation avant d'agir. À défaut, l'État devrait s'assurer dans ce cas.
Maître Touré, vous êtes d'accord?
La question, elle est précise, mais les réponses sont assez délicates. Parce qu'il s'agit d'une opération de prise en otage de populations, femmes, jeunes, enfants, vieux, de milliers de personnes, enfin des centaines de personnes. Le mode d'intervention, il doit être étudié avec tact et mesure. A priori, quand on s'appuie sur ce qui s'est passé à Farabougou, pour des républicains comme nous, qui ne sommes pas pour une islamisation par étapes de la vie de la nation, nous pensons que négocier avec des djihadistes est une fausse bonne idée, parce qu'ils sont dans une idéologie avec une doctrine rigide. Moi, je ne vois pas ce qu'on peut négocier avec les djihadistes. C'est une question de rapport de force. Sauf que là, dans cette situation de Vanangourou, le rapport de force est à leur faveur. Est-ce qu'il faut maintenant une véritable opération militaire de dégagement des populations? Je ne suis pas spécialiste pour le dire, mais c'est le souhait pour moi.
Mais déjà, il faudrait que les populations, dans ce cas-là, soient autorisées à partir en toute sécurité.
Justement, je vous parle avec mes limites et mes connaissances en matière sécuritaire. Je ne vais pas me lancer là-dessus. Je préfère une opération militaire avec des spécialistes pour pouvoir essayer de dégager les populations plutôt que de rentrer dans une histoire de négociation qui me semble être sans issue et qui encouragerait à revers, maintenant à rebours, ces personnes à aller prendre en otage d'autres villages. Moi, je ne suis pas militaire, je ne suis pas un stratège en matière de sécurité, mais l'idéal pour moi, c'est que les militaires puissent trouver des voies et moyens pour vraiment dégager la population. Je ne sais pas comment, mais tout sauf la négociation avec les djihadistes. C'est une fausse bonne idée que de tenter de négocier avec les djihadistes. Négocier avec les djihadistes, a priori, on va négocier quoi avec les djihadistes? Leur doctrine, elle est claire. On veut l'application de la charia. C'est pas compliqué. Des gens qui sont dans ce schéma-là, qu'est-ce qu'on négocie avec eux? Soit on l'applique, soit on l'applique pas. Donc, il faut pas se cacher derrière les mots. Soit on abdique, soit vraiment on demande aux spécialistes en matière de sécurité de nous trouver les voies et moyens. Puisque vous savez très bien que l'armée et les forces de sécurité sont ce qu'on appelle la grande muette. Et plus elle est muette, mieux elle se porte. Donc, nous autres qui sommes sur le plateau, on va donner que des opinions sur des questions qu'on ne maîtrise pas.
Merci.
On ne peut donner que des avis. Moi, mon souhait, c'est que vraiment les militaires interviennent pour dégager la population plutôt que de négocier quoi que ce soit avec ces gens.
Monsieur Koné, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il y a une réponse réelle, une stratégie réelle de la part des autorités? Je ne voudrais pas qu'on revienne sur ce que les autres ont dit, solution militaire ou solution politique ou dialogue. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'au niveau de Bamako, les autorités militaires s'en préoccupent vraiment? Allô, monsieur?
Non, c'est ce qu'il faut dire au mieux.
Allez-y.
Oui, aujourd'hui, quand on essaye de faire une analyse globale, on se rend compte que les nouvelles autorités n'ont pas pris à bras de corps la question de la sécurité. Et moi, ce que j'ai dit, la question de l'hypothèse de négociation avec les gardiens, il faut écarter cette hypothèse. On va négocier avec qui? Qu'est-ce qu'on va négocier avec les gardiens? Les gens qui ne sont même pas des maliens, on va négocier quoi avec eux? Sur quelle base? Aujourd'hui, il faut former.
Pardon, vous dites qu'ils ne sont pas des Maliens, mais on a entendu certaines autorités maliennes dire qu'il s'agit des Maliens qui ont pris des armes contre d'autres Maliens et que pour cela, il faudrait plutôt négocier au lieu de prendre d'opter pour la solution militaire.
Non, madame, négocier avec les djihadistes, c'est aller vers une islamisation du Mali. Ce qui touche à la laïcité du Mali, de la République. Le Mali est une république laïque et tout ce qui peut aller à l'encontre de la laïcité du pays, les autorités ne doivent pas se compromettre, ils ne doivent pas rentrer dans les compromissions avec les groupes armés. Les groupes armés radicaux, qu'ils soient malais ou pas, la meilleure solution, c'est de former un commando pour aller libérer le village et combattre ces gens-là.
Mais avec ce qui s'est passé à Farabougou, est-ce que avec la façon dont on a réglé le cas de Farabougou, vous donne tel espoir sur une solution militaire?
Mais la question de Farabougou n'est pas totalement réglée. Hein. Ce qui est raconté par les médias maliens, c'est pas la réalité du terrain. À présent, ils sont sous la domination des groupes armés et d'ailleurs ils ont brûlé. Leur cas, ils ont brûlé toute leur production. Donc, ça, le fait que l'État envoie le Haut Conseil islamique pour aller négocier avec les groupes terroristes, c'est un échec de l'État. La question de la sécurité relève des domaines régaliens de l'État qui ne doit pas être sous-traité avec le Haut Conseil islamique.
Merci.
Maintenant, il nous faut former le militaire, former un commando comme l'armée française a l'habitude de le faire pour aller libérer les villages, pour aller libérer les communautés, ou trouver un moyen pour ouvrir un couloir humanitaire pour permettre de l'accès
d'exfiltrer les populations civiles
pour aller fournir les vivres et puis pour aller leur offrir des vivres et aussi pour aller prendre la question de la santé qui est extrêmement cruciale.
Merci.
Parce que vous savez, nous sommes un pays épidémiologique. Il y a trop de cas de famille. Il faut aller prendre les enfants qui sont des cas de famille. Il faut aller prendre les enfants qui sont victimes de malnutrition aiguë. Donc, il faut trouver des stratégies aujourd'hui pour libérer le village. Mais je suis opposé à toute forme de négociation.
Merci, monsieur Koné. On a compris. Permettez qu'on donne la parole aux autres aussi. Monsieur Diané, le sentiment qu'on a aussi, c'est que les FAMA sont aujourd'hui plus préoccupés à chercher comment sauver leur peau plutôt que de défendre l'intégrité du territoire et protéger les Maliens. Il y a notre débat au Mali aujourd'hui sur ce projet qui sera bientôt présenté devant le CNT. Certains disent que ça a déjà d'ailleurs été présenté au CNT pour protéger les putschistes d'éventuelles poursuites. Est-ce que finalement, à force de chercher à se protéger, à gérer le pouvoir politique, l'armée a encore vraiment le temps de s'occuper de la protection des Maliens et de l'intégrité du territoire malien?
Bon, vous savez, en la matière comme dans les coups d'État précédents, donc je crois que c'est le cas qui a été suivi par leurs prédécesseurs. Vous savez, après un coup d'État, il faut toujours chercher à se protéger à la vie.
Le capitaine Sanogo, il y avait même une loi similaire à l'époque contre le coup, après le coup d'État contre ATT.
Effectivement, il va de l'air de faire cela. Pour ce qui concerne leur action sur le domaine sécuritaire, comme vous le savez, c'est un régime de transition qui a assez de pouvoir limité.
Donc, pour vous, vous trouvez normal que ce projet de loi d'amnistie soit présenté?
Oui, pour la question et pour la solidarité au sein des forces armées. Donc, je n'en vois pas ça d'un mauvais œil.
D'accord. L'ADEMA aussi, d'ailleurs, l'autre parti politique, estime que c'est tout à fait normal que cette loi, projet de loi soit présenté au CNT pour écarter toute possibilité de poursuite contre les putschistes, dont Assimi Goïta, le chef de la transition. Et vous en pensez quoi, monsieur Touré, maître Touré?
Ben, ici, moi, je pense que c'est quelque chose qui est prévu dans les textes. Et l'amnistie intervient dans des situations pour... on oublie certains faits infractionnels. Et la particularité de cette loi d'amnistie, c'est qu'elle va se heurter à la constitution du Mali qui, à ce jour, n'est pas suspendue. Elle est complétée simplement par la charte. Et la constitution, quand même, elle précise clairement que le coup d'État est un crime imprescriptible. Bon, maintenant, on a un organe législatif transitoire qui a les attributions et les compétences pour pouvoir statuer là-dessus. Je pense que ce projet de loi va passer comme une lettre à la poste, parce que ceux qui sont au pouvoir, ils tiennent également le Conseil national de transition. Tout ce qu'on va dire, on va rester dans les grands principes à le condamner, mais dans la réalité, ça va se faire, ils auront cette amnistie et le CNT va la voter. Maintenant, sur le plan des valeurs, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais le Mali est dans une situation aujourd'hui où on a beaucoup de problèmes, et régler certains problèmes pour pouvoir faire face, en tout cas dans des conditions à minima acceptables, peut être une logique qui va amener à cela, parce que ceux qui sont au pouvoir, ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est qu'il y a le risque de s'éterniser au pouvoir, et puis le coup d'État en Afrique est devenu quelque chose qui est rentré dans la culture constitutionnelle des Africains, dans la culture politique et constitutionnelle, parce que notre Cour suprême a autorisé, à l'issue du second putsch, les auteurs à prêter serment, le serment du président de la République qui est prévu par la Constitution elle-même, qui est interdit et qui le coup d'État comme qui fait du coup d'État plutôt un crime imprescriptible. Donc nous sommes dans un imbroglio africain à la malienne, de sorte que cette histoire de CNT va voilà, ils vont faire leur loi et puis
est-ce que ce projet a-t-il été déposé ou non? Les membres du CNT s'étonnaient de ce que cela fut déjà dans les médias alors qu'ils n'ont pas reçu. Mais le coordonnateur général du Front du refus de l'accord d'Alger, Ibrahima Kébé, a affirmé que ce projet a été déposé depuis une dizaine de jours.
Oui, le projet avait été déposé. Il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé dans le cadre. Le premier projet qui a été déposé couvrait simplement les événements du 18 août, le premier coup d'État qu'on a fait à Ibeka. Donc ça couvrait celui-là. Entre-temps, en mai maintenant, un autre coup d'État est arrivé et ce n'était pas pris en compte par le projet initial. Donc le projet a été retoqué maintenant pour pouvoir l'élargir aux derniers événements, notamment le second coup d'État.
Donc il est devant le CNT au moment où on parle.
Il est entre les mains quand même des membres de la commission loi du CNT qui sont en train de l'élargir maintenant pour pouvoir prendre en compte les seconds événements qui sont en cours. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de tiraillements et d'histoires de dépôt ou de non-dépôt. Ça avait été déposé, ça devait passer. Entre-temps, le second coup d'État est venu, donc il faut le prendre en compte. Et donc c'est juste ça le véritable problème. Sinon, merci. Le projet existe, ça a été rédigé. Et il fallait simplement suivre la procédure. Dans le cadre de la procédure, il y a eu cette nouvelle évolution qui a fait qu'on est obligé de le ramener pour pouvoir prendre en compte les derniers événements, notamment le second coup d'État de mai 2021.
Merci, Maître Touré. Messieurs, je vous invite à marquer une courte pause avec nous et on se retrouve pour la fin de notre débat.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Blocus imposé par des djihadistes sur le village de Dinangourou dans le centre du Mali. Quelle réponse des autorités? C'est notre débat du jour avec Brahima Mamad Kone, politologue, Abdourahmane Ben Mamata Touré, avocat, et Amadou Diané, secrétaire général du mouvement Ensemble Uni pour un Mali nouveau émergent. Et je commence avec vous, Monsieur Diané. Avec ce qui se passe à Dinangourou et le silence des autorités jusqu'à présent dénoncé par une partie de la classe politique et de la société civile, lesquelles autorités sont en train de vouloir obtenir devant le CNT un projet de loi, l'adoption d'un projet de loi d'amnistie qui va protéger les putschistes? Est-ce qu'on peut dire avec précision aujourd'hui quelles sont réellement les priorités ou les intentions réelles des autorités militaires?
La priorité des autorités militaires, vous savez, les problèmes sont assez nombreux. Le cas de ce village est tout à fait récent. Donc les militaires, il faut remonter au coup d'État précédent en août 2018. Où ils étaient fixés comme priorité la sécurisation, le retour effectif de l'État dans toutes les localités du pays. Je crois que ce blocus est en fait un fait nouveau, parce que les djihadistes, en choisissant, même s'ils ne font pas ça par hasard, ils appuient sur des clivages communautaires. Et je crois que ce problème existe bien avant la venue des militaires.
Et vous, monsieur Maître Touré?
excusez-moi, j'entends mal.
Oui, Maître Touré, pour vous aujourd'hui, quand vous voyez la façon dont les autorités militaires gèrent cette crise du village de Dinangourou et qui en même temps tentent de se protéger à travers une loi d'amnistie, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on sait exactement quelles sont les priorités dans la tête de ceux qui gouvernent au Mali aujourd'hui?
Oh, là, c'est une question assez piégeuse, hein, parce que je pense qu'en réalité, que la priorité des forces armées de sécurité, objectivement, aujourd'hui, c'est la question de la sécurité. Mais ils sont à court de moyens face à leurs adversaires qui ont une capacité de mobilité beaucoup plus élevée et qui ont également un espace beaucoup plus large. Et sincèrement, je pense qu'ils sont préoccupés beaucoup plus par la question sécuritaire que la question de l'amnistie qui interviendra forcément à un moment ou à un autre. Mais seulement, ils n'ont pas les moyens vraiment de faire face à ce type de...
Mais est-ce que c'est en contrôlant le pouvoir qu'on obtient ces moyens de faire face à ces groupes armés qui aujourd'hui, on l'a vu à Farabougou et Dinangourou maintenant, imposent leurs règles en assiégeant en bloquant les populations?
Moi, je ne fais pas le lien directement entre le contrôle de pouvoir et celui maintenant de l'occupation des villages par les djihadistes. Le pouvoir a été condamné.
Vous-même, vous avez parlé de l'absence de l'État et puis la faible mobilisation des forces de sécurité face à ces groupes djihadistes, peut-être par manque de moyens. Mais le fait que les djihadistes n'aient pas en face une armée suffisamment engagée peut aussi justifier le fait que ça leur donne des ailes pour occuper le terrain et les villages quand ils le veulent.
Ouais, ce que je vous dis simplement, c'est que l'occupation du terrain par les djihadistes n'est pas la cause de l'occupation du pouvoir politique par les militaires. Pour moi, c'est deux choses qui sont carrément différentes. L'occupation du terrain par les djihadistes est un problème de doctrine, un problème de moyens de l'armée malienne. L'occupation du pouvoir par les militaires, maintenant, est une situation conjoncturelle qui est due à une instabilité politique qui a fait que l'armée est rentrée dans le jeu politique. Puisqu'ils rentrent dans le jeu politique et qu'ils prennent les commandes en main, et maintenant, ils essaient de se protéger pour l'après-pouvoir, ce qui ne les empêche pas pour le moment également de faire des choses. Quoi qu'on dise, notre armée, elle n'est pas également là, inerte, elle ne s'assoit pas les bras ballants à regarder. Elle fait ce qu'elle peut, elle fait beaucoup d'ailleurs. Vous savez très bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais simplement, comme je l'ai dit, la zone dans laquelle maintenant se trouve ce village, la présence de l'État étant fortement réduite, il est très facile d'occuper un village et maintenant dans ces conditions-là. Mais ce n'est pas forcément parce que les militaires sont au pouvoir qu'ils se sont désintéressés des questions sécuritaires. Moi, je Merci. Pense que c'est un raccourci qui ne me paraît pas du tout objectif. Notre armée se bat. Avec ses moyens, elle fait des choses positives à beaucoup d'endroits dont on ne parle pas. Elle anticipe plein de choses dont on ne parle pas. Mais quand des situations graves comme ça arrivent, il ne me semble pas être bien indiqué de simplement tenir le discours Merci. Qui consiste à faire croire que l'armée ne fait absolument rien. Je ne Merci, pense pas que Maître cela soit objectif.
On va laisser une minute au politologue Koné pour conclure. Tout cela arrive aussi au moment où on parle du 6e anniversaire de l'accord d'Alger, que certains acteurs politiques continuent de dénoncer. Quel est votre mot de fin par rapport à ces éléments que nous venons d'évoquer et dont aussi ce 6e anniversaire de l'accord d'Alger, Monsieur Koné?
Vous savez, madame, l'accord d'Alger, d'abord, premièrement, par rapport à la question sécuritaire, les militaires, quand on essaie de voir un peu les derniers événements avec les coups d'État, on se rend compte que les militaires ne sont pas venus pour libérer le Mali, mais ils sont venus aussi pour se faire une certaine santé financière. Et c'est pourquoi il y a aujourd'hui les nominations des militaires au niveau de la haute administration publique malienne au lieu d'aller sur le terrain.
Et certaines ambassades à l'étranger.
Et les terroristes et les groupes armés. Bon, maintenant, par rapport à l'accord d'Alger, il faudrait reconnaître qu'il y a eu un péché, comme le dit le net représentant de l'armement, un péché originel, parce que l'accord, en réalité, n'a pas été vulgarisé. L'accord n'a pas été discuté au sein du Parlement, l'accord n'a pas été... Il n'y a pas eu, en fait, une communication institutionnelle.
Mais la MINUSMA estime qu'en 6 ans, il y a eu beaucoup d'avancées.
Bon, il y a eu des avancées, mais c'est pas des avancées. Les avancées sont minimes par rapport aux attentes des communautés, par rapport aux attentes des Maliens. C'est-à-dire qu'il y a eu une lenteur dans le processus et il y a eu moins de communication autour de l'accord après que les acteurs importants, aussi bien que les communautés maliennes, puissent s'approprier du contenu de l'accord. L'autre axe d'analyse, c'est que l'accord, dans sa phase actuelle, est inapplicable. Il faut procéder à une relecture de l'accord. Mais comment y arriver? Et ça, il faut entamer des négociations pour pouvoir aller à la renégociation de l'accord. Sinon, dans sa phase actuelle, l'accord est inapplicable tant qu'on ne va pas à la révision constitutionnelle. Et vous savez, le processus de révision constitutionnelle aujourd'hui est pris en otage. C'est vrai qu'il y a certaines dispositions de l'accord qu'on peut appliquer sans toucher à la constitution, mais même là, il faut vraiment aller à une relecture. Moi, je crois que si on va vers cet aspect et qu'on arrive à s'entendre là-dessus, on peut commencer déjà à mettre en application certaines dispositions de l'accord.
Merci beaucoup, Brahima Mamad Kone, politologue spécialiste des questions de gouvernance et sécuritaire. Vous êtes également enseignant en sciences politiques à l'Université de Bamako. Merci à Amadou Diané, secrétaire général du mouvement Ensemble Unis pour un Mali nouveau émergent, et à Maître Abdourahmane Ben Mamata Touré, avocat au barreau du Mali, d'avoir participé à ce débat que vous pouvez retrouver bientôt en podcast sur africaradio.com. Bonsoir.